Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Deux ans après le tremblement de terre en Turquie, les victimes réclament la condamnation des responsables. On arrête d'acheter, le mouvement des consommateurs contre la vie chère dans les Balkans. Enfin, des œuvres d'art ukrainiennes ont trouvé refuge en Lituanie. On parle de tout cela aujourd'hui dans Accent d'Europe. Bonjour. Deux ans après le tremblement de terre qui a fait 54 000 morts et plus de 100 000 blessés, les victimes attendent toujours des réponses, des condamnations, des indemnisations. La lenteur des procès est une chose, mais les rescapés dénoncent surtout le manque de transparence des enquêtes et le très petit nombre de responsables publics sur le banc des accusés. Il s'agit aussi d'éviter que les mêmes erreurs se répètent à l'avenir. Reportage de notre correspondante à Ankara, Anne Andlauer.
Pendant 25 semaines, tous les dimanches, Dene Kaya s'est tenue seule, droite, une pancarte à la main sur une place d'Ankara. Cette jeune femme de 28 ans, à l'épaisse chevelure bouclée et aux lunettes rondes, ne réclamait qu'une chose, justice pour sa mère, sa sœur, son beau-frère et son neveu de 9 mois et les 53 533 autres personnes, selon le décompte officiel, mortes dans le séisme du 6 février 2023. Dene réclame toujours justice. Le procès de l'immeuble où ses proches ont perdu la vie, un bâtiment récent, construit en 2016, mais qui ne respectait pas les normes parasismiques, s'est ouvert à Hatay le 31 janvier, presque deux ans après les faits. 6 personnes sont jugées, dont le promoteur immobilier. Mais Dene veut que des officiels, le maire de l'époque et tous les fonctionnaires qui ont autorisé la construction et validé le chantier, soient jugés également.
Juger le promoteur, les responsables de chantier et quelques contrôleurs techniques, ça ne me suffit pas. Un promoteur, quand il sort de prison, peut encore construire quoi ? Une dizaine d'immeubles ? Pendant ce temps, les fonctionnaires qui ont approuvé les logements, qui ont tué nos proches, continuent d'approuver, dans les mêmes conditions, des milliers de nouveaux logements dans les zones sinistrées en pleine reconstruction. Je veux donc que les fonctionnaires responsables soient poursuivis, condamnés, bannis de la profession. Sinon, nous ne serons jamais préparés au prochain tremblement de terre.
La quête de justice de Dene ressemble à celle de toutes les familles endeuillées dans le séisme. Leurs demandes sont les mêmes, mais pour ouvrir une enquête contre un officiel turc, il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur qui n'en a accordé qu'une soixantaine en deux ans, alors que le nombre d'immeubles qui se sont effondrés avoisine les 39 000. Seuls environ 200 procès ont déjà commencé. Les enquêtes traînent en longueur, les rapports d'experts tardent ou s'accumulent et se contredisent. Peu de suspects sont incarcérés. Les quelques décisions rendues sont d'une sévérité variable. Prison à vie dans un dossier, quelques années dans la plupart. Acquittement ailleurs. L'avocate d'Uygu Inegölü a perdu dans le séisme une partie de sa famille. Une enquête est toujours en cours. Tous les suspects ont été libérés après qu'un rapport d'experts a estimé que le promoteur et les inspecteurs n'étaient pour rien dans la destruction de l'immeuble. Un immeuble d'à peine 3 ans, l'un des seuls de son quartier à s'être effondré. D'Uygu ira jusqu'au bout en justice, mais elle n'y croit pas.
Je n'oublie pas que les premiers jours, l'État nous a abandonnés. Nous n'avons reçu aucune aide pour sortir nos proches des décombres. Le message était clair, nous ne sommes pas à vos côtés, nous ne le serons pas. Pire, pendant ces jours critiques, l'État a restreint l'accès à Internet et aux réseaux sociaux qui auraient pu sauver des vies. Donc depuis le début, je ne place aucun espoir dans l'État.
Selon elle, le gouvernement a intérêt à retarder les procédures.
D'une part, le pouvoir ne veut pas qu'on mette au jour la responsabilité des acteurs publics, des fonctionnaires, des maires, car c'est aussi la sienne. D'autre part, les liens étroits entre ce pouvoir et le secteur de la construction, les promoteurs, sont connus depuis longtemps. Là encore, il ne veut pas qu'on s'en prenne trop à ses milieux, par crainte que cela ne finisse par lui retomber dessus.
Le secteur de la construction a joué un rôle moteur dans la croissance économique de la Turquie, dirigée depuis 2002 par Recep Tayyip Erdogan. Les grandes entreprises du BTP, qui raflent les appels d'offres, autant que les petits promoteurs, sont devenues des figures symboles des liens clientélistes, tissé depuis deux décennies par le parti présidentiel, l'AKP. Ce sont souvent eux qui, depuis deux ans, reconstruisent au pas de course les régions sinistrées. Dene Kaya, elle, aimerait croire à la justice, mais pas seulement celle des tribunaux.
Le jour où un violent séisme frappera à nouveau et où nous ne perdrons pas des dizaines de milliers de vies, Ce jour-là, nous saurons que justice a été rendue. La justice, pour moi, ne se limite pas à des condamnations judiciaires. On sait tous que si des dizaines de milliers d'immeubles se sont effondrés le 6 février 2023, c'est à cause de négligence dans les inspections et d'un secteur de la construction obsédé par le profit. Ce n'est pas comme on l'entend dans la défense de certains accusés, à cause du destin. Ce n'est pas comme on le lit dans des rapports de certains experts, parce que personne ne pouvait prévoir la violence du séisme. Ce qui a tué, c'est la culture du profit et de l'impunité.
Donner représente la plateforme des familles en quête de justice qui rassemble une quarantaine de familles endeuillées. Elle vit à Ankara, mais ces dernières semaines, elle les a passées sur la route, raison pour laquelle elle nous répond par téléphone. Elle s'est rendue à Istanbul, poumon économique de la Turquie, ville de 20 millions d'habitants menacée elle aussi par un séisme dévastateur et très loin d'y être préparée. Donné y a organisé des rencontres, des manifestations. Dans l'un des pays les plus actifs au monde sur le plan sismique, la jeune femme est en proie à une grande inquiétude.
Notre souhait est de générer une pression de l'opinion publique. Malheureusement, force est de constater que le séisme du 6 février a été largement oublié, sauf bien sûr par les familles qui ont été touchées.
La dernière fois que Donné s'est rendue à Hatay, c'était en novembre dernier. La vue de cette ville en chantier l'inquiète. Les procès la font douter que les leçons du séisme aient été réellement tirées. Elle dit qu'elle reprendra ses manifestations hebdomadaires à Ankara bientôt, pour la justice, contre l'oubli.
C'est un mouvement contre la vie chère qui secoue la Croatie depuis plusieurs semaines et qui commence à faire tache d'huile dans tous les Balkans. Boycott, c'est son nom, n'a pas fini de faire parler de lui. Les explications de Simon Rico.
Ne rien acheter, ni dans les magasins, ni en ligne, ne pas aller au restaurant ou au café et ne rien se faire livrer à domicile. Le 31 janvier, le boycott, contraction de buy, acheter en anglais et boycott, a encore pris de l'ampleur en Croatie, une semaine après l'immense succès de sa première journée, quand les centres commerciaux désertés ont vu leur chiffre d'affaires divisé par deux. Cette initiative, lancée en ligne par une association de consommateurs, entend protester contre l'inflation qui continue de flamber. En 2024, la Croatie a connu la hausse des prix la plus élevée de la zone euro et 2025 continue sur les mêmes bases. Mais le phénomène n'est pas nouveau. Ces trois dernières années, les prix de l'alimentation ont bondi de 30% et certains produits du quotidien sont trois fois plus chers qu'en Allemagne, où le salaire moyen est pourtant plus de trois fois supérieur. L'initiative croate fait désormais tache d'huile dans tous les pays voisins des Balkans, eux aussi touchés par le même problème. Un coût de la vie qui augmente bien plus vite que les salaires. La faute à une production locale qui baisse et à des importations de plus en plus massives pour compenser. Sur les réseaux sociaux de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie, de Serbie, du Monténégro ou du Kosovo, on voit fleurir des images comparant les prix d'un même produit vendu beaucoup plus cher dans les Balkans que dans les pays riches de l'Union européenne. Alors que les patrons et les autorités, mis en cause pour leur mauvaise gestion, s'inquiètent un peu partout des conséquences potentiellement négatives pour l'économie locale, les effets de ces boycotts commencent à se faire sentir. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, les prix de certains produits ont déjà baissé de 10 à 30%.
En première ligne, comme ex-république soviétique, frontalière avec la Russie et régulièrement menacée verbalement par le gouvernement Poutine, la Lituanie est aussi à la pointe de l'aide pour l'Ukraine. Le pays accueille plus de 70 000 réfugiés ukrainiens. Il entend aussi être un sanctuaire pour les œuvres d'art et les artistes ukrainiens. Reportage à Vilnius de Marielle Vituro.
Sur l'une des tables de l'Institut National de Restauration des Œuvres, Egle Pichtchikaïté déballe les tableaux naïfs très colorés de Maria Primachenko. On y voit des lions et toutes sortes de créatures féeriques.
Le papier est dans un très bon état, mais il s'agit d'une peinture à la gouache et c'est une matière très fragile. La gouache a beaucoup séché à de nombreux endroits au niveau de la pâte et sur le bord, la peinture s'effrite. Ils ont été abîmés pendant le transport. Ils ont été emballés avec ce qui tombait sous la main, car le plus important était d'évacuer les tableaux.
Maria Primachenko est l'une des grandes artistes ukrainiennes. Morte en 1997, elle a créé toute sa vie dans la région de Zaporijja, dans l'est de l'Ukraine, une région particulièrement touchée par la guerre. Ses tableaux ont été transférés du musée régional de Zaporijja vers Lviv, à la frontière polonaise. C'est là que Skaistis Mykolonis, commissaire d'exposition au musée national de Lituanie, les a récupérés. La centaine de toiles est arrivée dans le pays dans des conditions plutôt rocambolesques.
En temps de guerre, les assurances ne fonctionnent pas. Que faire? Il faut les évacuer, on ne peut pas risquer de perdre ces œuvres. On a fini par trouver un compromis, il faut que les œuvres soient transportées par des personnes armées. Le défi numéro un était de trouver des personnes armées pour accompagner le convoi, le tout en temps de guerre. Autre chose, à la frontière, les files sont interminables. On peut patienter durant une semaine avec des chefs-d'œuvre. Il a fallu travailler en amont avec les douanes pour qu'elles comprennent l'importance de nous laisser passer rapidement. Comment on transporte des objets de grande valeur? Il faut payer des impôts pour leur transit en Pologne. Là, il a fallu trouver une solution pour sortir du flou grâce à une lettre de l'ambassade. On a été exempté du paiement de ces droits.
Une quinzaine de peintures sont en cours de restauration. Les autres tableaux sont exposés à Vilnius avant de partir en tournée dans le pays. Cette exposition est la 10e exposition ukrainienne que les Lituaniens ont organisée depuis le début du conflit, il y a presque 3 ans. La Lituanie a transporté plus de 1000 œuvres ukrainiennes dans ces conditions pour une valeur de plus de 40 millions d'euros. Une nécessité pour Skaistis Mykolonis.
Les élucubrations de Poutine sur le fait que la culture ukrainienne n'existe pas nous a rendus très pessimistes et nous avons compris qu'il ferait aussi la guerre à la culture et qu'il détruirait la mémoire. En évacuant ces tableaux, nous faisons aussi la guerre contre lui d'une autre manière. Comme nous avions des liens étroits avec les Ukrainiens, nous avons compris dès le début ce qui nous attendait.
Les artistes ukrainiens, eux aussi, trouvent refuge en Lituanie. Polina Soromaha habite depuis le 24 février 2022 à Vilnius. Elle attend des subventions pour publier un recueil de poésie dans une édition bilingue, ukrainien-lituanien. Quand la guerre éclate, les muses parlent plus fort. Pour Polina, ce dicton ukrainien est juste.
J'avais un ami, Maxime Kristof, il était soldat et a été tué par les Russes. Avant, il avait publié un magnifique recueil de poèmes. Après sa mort, j'ai compris combien il était important que la Lituanie et les autres pays accueillent les artistes, les écrivains, car ainsi ils survivent et contribuent à la beauté du monde. Ils aident la société à dépasser la situation et à avancer.
Pour aider les artistes ukrainiens réfugiés, le Conseil lituanien de la culture leur a même versé des bourses. De 2022 à 2024, 236 projets ont été financés à hauteur de 424 000 euros. L'argent a par exemple servi à Anastasia Velikor. Elle a mis sur pied des séances d'audiothérapie ouvertes à tous avec des DJ ukrainiens à Vilnius. Elle organise aussi des soirées beaucoup plus classiques.
Durant toutes nos soirées, nous collectons de l'argent pour l'Ukraine. C'est notre travail. Je crois en l'art. C'est notre manière de mener la guerre. Il faut parler de l'Ukraine.
Astey Ulubey, qui dirige l'association Artscape, expose régulièrement des artistes réfugiés en Lituanie venant de différents pays. Elle nuance. Ici, la situation reste difficile pour eux.
Notre marché de l'art reste très fermé et il existe de nombreuses barrières, comme celle de la langue pour les artistes venant de pays étrangers. Il n'y a pas de système pérenne pour obtenir des bourses pour eux. Il y a juste des initiatives isolées et elles se réduisent alors que les réfugiés continuent d'arriver, environ 200 par semaine.
Selon la législation européenne en vigueur, pour prévenir toute appropriation, un pays ne peut accueillir les œuvres d'art d'un autre pays que pendant 3 ans. La Lituanie cherche déjà qui pourrait prendre la relève pour protéger les tableaux ukrainiens sauvés des bombes russes.
la réunification allemande, ses réussites, ses dérapages, ses enjeux économiques et politiques. Ce n'est pas le sujet d'un colloque, mais les thèmes de rencontres qu'organise tous les ans l'ambassade de Corée à Berlin. Car pour la Corée, dont la partition remonte à plus de 75 ans, l'exemple allemand, qui date d'à peine plus de 35 ans, est riche d'enseignements. Reportage à Berlin de Delphine Nerbollier.
Stella Lee est arrivée en Allemagne un peu par hasard il y a 5 ans. Cette jeune femme de 33 ans est née et a grandi en Corée du Nord. Elle avait 19 ans quand elle a fui son pays avec sa mère pour s'installer dans le sud de la péninsule coréenne. À Séoul, elle se lance dans des études d'ingénieur, puis décide de poursuivre à l'étranger. Ce sera Los Angeles et ensuite l'Allemagne, où les études supérieures sont gratuites. Berlin est aussi un symbole, avec son mur dont il reste des traces.
Là où autrefois le mur passait, il y a maintenant une ligne au sol dans Berlin. Aujourd'hui encore, quand je vois cette marque, je m'amuse à sauter d'un côté et de l'autre. C'est ça la liberté.
Vivre dans un pays autrefois divisé, mais aujourd'hui réunifié, c'est évidemment un vrai symbole pour Stella Lee, qui aime à se présenter comme coréenne, tout simplement, sans allusion, ni au nord, ni au sud.
Au début, j'étais jalouse. C'est vrai, ils se sont réunifiés. J'avais 19 ans quand j'ai quitté mon pays. J'y ai laissé mes parents, mes amis d'enfance, ma grand-mère. Il me manque tellement. Mais ici, je travaille surtout avec des gens qui ont été des citoyens de l'ex-RDA. J'espère vraiment que mon pays vivra la même chose avant que je ne sois trop vieille.
Comme Stella, Seri Han souhaite vivre le moment historique d'une réunification coréenne. Cette quadragénaire est née et a grandi en Corée du Sud et fait partie d'une association qui milite pour la fin de la division de la péninsule. C'est elle qui animait récemment une rencontre sur ce thème à l'ambassade de Corée du Sud à Berlin. Pour elle, l'Allemagne est une source d'inspiration.
L'Allemagne l'a fait. Peu importe si elle l'a bien fait ou pas, elle s'améliore chaque jour. C'est un long voyage, un long processus. Mais l'important, c'est qu'elle l'ait fait et qu'elle avance.
Officiellement, les autorités nord-coréennes disent avoir abandonné tout objectif de réunification. Et la tension augmente entre les deux États. Mais cela ne démoralise pas ces deux jeunes femmes. Au contraire, pour Seri Han, il faut se préparer.
La réunification allemande a été si soudaine. Nous devons prendre le temps de nous préparer. Nous devons écouter les déserteurs nord-coréens qui expliquent leur expérience. On doit en tirer des leçons et des idées. C'est ce que l'on apprend.
Preuve de l'importance apportée à l'exemple allemand, l'ambassade de Corée du Sud compte dans son équipe à Berlin un fonctionnaire spécialisé dans l'étude de la réunification allemande. Dong Wuko y voit des réussites mais aussi des pièges à éviter.
À mon avis, une Corée unie peut être aussi prospère que l'Allemagne. Mais je constate des problèmes ici en matière d'unité nationale. Il y a actuellement en Allemagne un certain radicalisme avec le parti d'extrême droite AfD. Il est très apprécié dans les régions de l'ex-Allemagne de l'Est.
La montée du populisme, très forte dans les anciennes régions communistes, est un symptôme en effet d'un mal-être identitaire né de la division de l'Allemagne et d'une réunification qui a parfois mésestimé l'héritage des Allemands de l'Est. Ce soir-là, à l'ambassade de Corée du Sud, Franziska Dimotrova, une berlinoise née en ex-RDA, a voulu donner un conseil aux Coréens présents dans la salle.
Les situations entre l'ex-RDA et la Corée du Nord sont, je pense, très différentes. La Corée du Nord est beaucoup plus isolée et l'idéologie y est beaucoup plus forte. Donc en cas de réunification, il faudra apporter une bonne dose de respect, de sensibilité et d'empathie. S'intéresser à ce que les gens veulent au lieu de savoir ce qui est bon pour eux.
Cette idée que tout ce qui faisait l'ex-RDA, ses valeurs, ses aspects positifs, a été englouti par une Allemagne de l'Ouest plus riche et mieux disante, est assez présente dans les esprits à l'est du pays. Un exemple donc à ne pas suivre.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur le site de RFI et l'application Pure Radio. Demain, dans Accent d'Europe, un reportage exceptionnel sur la stérilisation forcée des femmes inuites et leur discrimination au Groenland.